RTL Équipe, Carrément Glisse, Clément Grèze.
Salut à tous et bienvenue sur RTL Équipe pour un nouveau numéro de Carrément Glisse. Un week-end chargé qui nous a offert du beau, du très beau, même avec notamment en ski alpin et en géant féminin la victoire de Tessa Worley. Ça va moins bien en revanche pour Sandrine Aubert, mais la relève est assurée avec Nastassia Noens en slalom. On fera le point avec Jean-Denis Cocard du journal L'Équipe dès le début de cette émission. Le combiné nordique va bien. Également Jason Lamy-Chapuis s'est imposé et a pris la tête de la Coupe du Monde de combiné. Nicolas Michaud sera en notre compagnie pour faire le point, un point complet sur cette équipe de France. Jean-Marc Gaillard présent avec nous également, ainsi que Vincent Vitoz, les deux leaders de l'équipe de France de ski de fond. Jean-Marc Gaillard sur les spatules, même si ça se passe pas très très bien en ce début de saison. Vincent Vitoz à l'hôpital pour l'instant, ou plus exactement en train de soigner ses petits bobos à la cuisse. On fera le point avec lui avant de nous pencher sur l'équipe de France de biathlon en compagnie de son directeur sportif Christian Dumont. Quels sont les objectifs alors que débute cette semaine à Östersund en Suède la saison de Coupe du Monde? En deuxième demi-heure, le trophée Bompard, c'est du patinage artistique, avec des satisfactions évidemment dans le clan tricolore, la victoire notamment de Nathalie Péchala et de Fabien Bourza. Nathalie qui sera en notre compagnie, la satisfaction également pour Florent Amodio, deuxième chez les hommes, déception en revanche pour Brian Joubert. Nous ferons le point également dans cette émission Carrément Glisse en compagnie de Céline Longuèvre du quotidien L'Équipe et de Jean-Roland Oracle, le directeur du patinage artistique pour l'équipe de France. Avant de nous pencher sur le patinage de vitesse pour conclure cette émission, vous le savez, c'est notre fil rouge tout au long de cette saison, car nous avons fait le pari de dire qu'en 2014, cet homme-là sera champion olympique. Il s'agit d'Alexis Contin, qui revient d'un week-end en Norvège à Hamar, un petit peu décevant. Décevant, ce n'est pas le qualificatif de cette émission qui se profile pendant une heure, de 11h30 à midi et demi. C'est Carrément Glisse, évidemment, en votre compagnie pour notre plus grand plaisir.
Tous les lundis dès 11h30, c'est Carrément Glisse sur RTL L'Équipe.
Carrément Glisse que vous pouvez évidemment retrouver tous les lundis en rediffusion de 15h30 à 16h30, mais également en podcast sur le site internet rtl.fr. Carrément Glisse qui va commencer par un point complet sur l'actualité du ski alpin week-end outre-Atlantique, avec Aspen et Lake Louise au programme des hommes et des filles. Ça s'est plutôt pas trop mal passé pour les filles, avec notamment la victoire de Tessa Worley, la 6ème place de Nastassia Noens en slalom. Chez les garçons, c'est mi-figue, mi-raisin. On en parle tout de suite avec Jean-Denis Cocard, qui a suivi l'ensemble de ce week-end de ski alpin pour le quotidien L'Équipe. Salut Jean-Denis.
Bonjour.
C'est une équipe de France conquérante chez les filles, en tout cas, et qui s'est présentée hier. Ce week-end a plutôt été bon, effectivement, avec une première place pour Tessa Worley lors du géant et une 6ème place pour Nastassia Noens dans le slalom. En revanche, une Sandrine Aubert qui a déçu, qui n'y arrive pas tout simplement ce début de saison.
Oui, c'est un week-end un peu contrasté, mais globalement assez positif. Il y a eu, oui, effectivement, comme vous le dites, deux points noirs chez des garçons, le Super G où les garçons étaient loin, et Sandrine Aubert qui, malheureusement, chaque début de saison a du mal à mettre en route. Là, hier, elle était vraiment un peu touchée par cet échec. Elle ne comprenait pas trop pourquoi elle n'avait pas skié, et c'était pas tant dès les premières portes, elle n'était pas du tout dans le rythme, comme paralysée par la peur. En revanche, effectivement, les autres filles, les filles du groupe technique, elles ont vraiment assuré. Tessa Worley donc l'emporte sur la piste même où elle avait remporté le premier géant de sa carrière à Aspen il y a 2 ans. À l'issue vraiment d'un superbe géant, c'est une piste très belle, vraiment exigeante, et ça lui convient bien. Elle s'en sort pour quelques centièmes, quelques poussières de secondes devant la championne du monde, devant la championne olympique et la championne du monde.
Ça classe un succès, oui.
Ça, tout à fait. Et en slalom, y a l'émergence de Nastassia Noens. Ça fait un bout de temps qu'on l'attendait, et peut-être pour la première fois, peut-être la deuxième, elle avait fait 8e à Farao l'an passé. Elle a skié à son niveau, elle a skié libéré, et je pense que ça peut constituer un déclic et l'amener vers des top 10 assez réguliers cette saison. C'est son objectif en tout cas.
Chez les garçons, c'était pas mal en descente, avec notamment la 5ème place de Johan Claret à l'occasion de cette descente. Donc, en revanche, en Super G, on retrouve cette faiblesse récurrente dans l'équipe de France, avec des 27ème et 28ème places pour le clan tricolore, très très loin de toute façon du vainqueur du jour, en l'occurrence Tobias Lunenfelder.
Oui, voilà, c'est un très très bon résumé. En descente, c'était même très positif. On a même cru un petit bout de temps que Johan Claret allait l'emporter, parce qu'il avait creusé un énorme écart sur ses adversaires. bon, après les tout meilleurs, les Zwindal et les Autrichiens vraiment en verve, l'ont poussé hors du podium, mais c'était une très belle entrée en matière. Derrière, Théo n'est pas si loin, il est dans le top 20 alors qu'il n'a pas skié pendant 3 semaines pour des soucis lombaires. Il a été infiltré en début de semaine pour pouvoir skier tout simplement. Donc je pense que c'était oui effectivement prometteur. Après, en Super G, malheureusement pour l'instant, on n'a que Théo qui est compétitif et qui avait un bon dossard. Mais là, le manque de ski s'est fait sentir, il n'était pas très précis, il manquait un peu de fond, il a perdu beaucoup de temps et en descente et en Super G sur les fins de parcours. Somme toute, c'est assez logique. Bon, on espère que ses camarades vont un peu se rapprocher. Bertrand rentre dans le top 30 en partant avec le Star 44, ce qui est quand même une performance très honorable. Mais pour l'instant, les Français sont loin. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les dossards et que pour l'instant, il faut rentrer dans les points pour essayer de se rapprocher un petit peu des premières places. C'est sûr qu'on aimerait plutôt être dans le cas de la Suisse, là où c'était une démonstration de densité avec 5 Suisses dans les 10 premiers et un Yanka qu'on disait pas très en forme et ayant des soucis de matériel qui vient faire deuxième. C'est sûr que c'est encore un autre monde.
Et justement, et ce sera ma dernière question, Jean-Denis Pocard, vous qui avez suivi ce week-end de Coupe du Monde pour le quotidien L'Équipe, les favoris sont d'ores et déjà présents aux avant-postes. Vous avez évoqué le cas de Carlo Yanka, on peut évoquer également Didier Tuch et toute la Wunder Team, les Autrichiens également présents, à l'image de la victoire avant-hier de Michael Walschhofer dans la descente.
Oui, chez les garçons, c'est sûr qu'il n'y a pas une grosse surprise, hormis la victoire de Tobias Grosenfelder, qui était plutôt un très bon second rôle. Mais bon, cette fois, c'était pour lui. Effectivement, Yanka, qu'on pensait un peu en difficulté, je vous disais, il avait eu une préparation assez perturbée par un virus, il avait des soucis avec ses fixations, il ne trouvait pas le bon compromis. Il part avec un joli PQ, une 7e place en descente et une très belle deuxième place hier. Zwindal a été très très bon sur la descente. En revanche, il a totalement raté son super G. Bon, il sera là cet hiver. Et les Autrichiens, effectivement, sortent d'une saison noire. Ils ont fait 0 l'an dernier au jeu. Pas de médaille chez les garçons.
Et 0 victoire en descente aussi, on le rappelle.
0 victoire en descente, tout à fait. Il n'avait plus gagné depuis mars 2009. C'était une très très longue disette dans ce grand pays de ski. Et là, sur la descente, ils ont été impressionnants. Le grand ancien Walschhofer a été très bon. Et Scheiber, qui est en tête de la Coupe du Monde Générale, est présent les deux fois. Lui aussi, c'est un peu le Grünenfelder autrichien. Il est souvent placé et pas encore gagnant, mais je pense que ça ne devrait plus tarder parce que ces deux prestations étaient excellentes.
Et le voilà effectivement en tête de la Coupe du Monde après 3 épreuves sur 37 avec 130 points au compteur juste devant Zurbriggen, le Suisse. Merci beaucoup Jean-Denis Cocard d'avoir fait le point pour nous dès le début de cette émission sur ce week-end de Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada, à Aspen et Lake Louise. Et à très très vite évidemment sur RTL Équipe. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
Carrément glisse sur RTL Équipe.
Allez, la suite de Carrément de liste qui s'envole en Finlande pour faire le point sur une saison de ski de fond qui a débuté à Kuusamo, très exactement. Et avec nous pour faire le point, bien justement, sur ce début de saison, c'est Jean-Marc Gaillard, l'un des fondeurs de cette équipe de France. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Alors, il faut bien expliquer à l'ensemble du grand public qui découvre, pourquoi pas, le ski de fond qu'on n'est pas obligé d'être prêt en début de saison. Et en l'occurrence, c'est votre 27e meilleur résultat. Vous êtes assez loin après 3 épreuves de Coupe du Monde au classement général. Mais il faut, pour bien nous comprendre, nous expliquer vos objectifs cette saison, Jean-Marc.
Alors, oui, c'est vrai que les objectifs, ils sont un petit peu plus tard dans la saison. On a déjà une première Coupe du Monde à La Clusa, qui est un premier objectif, qui est déjà dans 3 semaines. Et puis après, on a un Tour de ski, qui est un des objectifs aussi majeurs pendant les fêtes. C'est un format de 7 ou 8 compétitions qui s'enchaînent, un peu comme le Tour de France. Et puis enfin, les championnats du monde à Oslo, qui se déroulent début mars, où là, c'est vraiment le gros objectif. Donc c'est vrai que c'est la reprise, ça fait 2 week-ends qu'on a vraiment repris avec le circuit Coupe du Monde. Donc c'est pas tout de suite les bonnes sensations. C'est pas forcément voulu. C'est un peu ça le problème pour l'instant. C'est que j'espérais être un petit peu être assez dans le coup en entrée de jeu pour pouvoir justement être bien à la Clusa. C'est pas ce qui se passe, mais bon, il y a pas pour l'instant, ça arme pas encore trop. Et puis on change pas non plus tout le programme. Je crois que la préparation a été bonne de toute façon. Il n'y a pas de raison que ça marche pas plus tard dans la saison.
Alors on rappelle que ce petit week-end de Coupe du Monde à Cuisamo est à dominante classée sur une neige qui généralement ne vous réussit guère et qu'en plus c'est vrai que l'équipe de France n'axe pas sa préparation sur le début de saison. Mais tout de même, on sent poindre dans vos propos un tout petit peu d'inquiétude sur votre état physique. Où on en est exactement ?
Mais c'est vrai que J'ai rarement attaqué aussi mal la saison, donc je suis pas très confiant. Les premières compétitions de sélection qu'on a eues en France se sont super bien passées. J'étais vraiment confiant pour le début de saison. Et puis arrivé là-haut, c'est vrai que j'ai tout perdu mes repères, mes sensations. Donc c'est un peu dur à analyser comme ça à chaud. Je débarque juste aujourd'hui de l'avion et tout ça, donc il va falloir le temps que j'analyse un peu tout ça. Ça tombe bien, c'est que le week-end qui arrive, j'ai pas de compétition. Il y a une Coupe du Monde en Allemagne, mais c'est du sprint, donc j'y vais pas. Et ça me laisse une quinzaine de jours pour bien préparer pour la Coupe du Monde de Davos en Suisse dans 15 jours. Et puis voilà, ouais, c'est vrai que je dois analyser un peu tout ça et puis voir. Mais il faut peut-être quelques jours de repos et puis je pense que le tour dans nos montagnes, dans les Alpes, va faire du bien aussi parce que là-haut, on avait cette température, on n'était pas forcément habitué non plus.
Alors justement, sur quoi on va travailler ? C'est un problème technique, un problème d'endurance, un problème tactique dans la façon de gérer vos courses ?
Ça peut être un problème de fraîcheur. C'est vrai, je pense que l'entraînement, de toute façon, il est là. S'il y a quelque chose à faire, c'est peut-être plus se reposer un petit peu. Je pense que je vais couper 2-3 jours en tout cas, et essayer de plus trop penser au ski, essayer de voir un peu autre chose. Et puis après repartir sur de bonnes bases. C'est vrai que ça m'a déjà fait ça par le passé, donc pourquoi pas. Enfin, je me dis que ça va bien revenir. Puis c'est vrai que la motivation est toujours bien là. Il y a des avec les beaux objectifs qu'on a encore tout l'hiver et donc voilà, c'est vrai que c'est
pas de spleen post-olympique.
Non, loin de là, parce que vraiment j'avais bien fini la saison après les Jeux Olympiques et puis la préparation était bonne, les chronos étaient bons c'est cette fin d'automne, donc vraiment c'est ces deux week-ends là où j'irais que j'ai encore du mal à l'expliquer, mais la lancée était bonne après les Jeux Olympiques, donc voilà, il n'y a pas de raison que ça rigole pas un jour ou l'autre.
C'est en tout cas tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Jean-Marc Gaillard d'avoir été en notre compagnie. Petit coucou à Vincent Vitos, tiens, qui nous
oui,
rejoint à l'instant.
Un grand coucou à Vincent, et qui nous a bien manqué ce week-end, et puis de revenir très vite avec nous, il va nous faire grand bien.
Et ben, il est justement en notre compagnie, Vincent Vitos. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Avec cette Coupe du Monde donc à Cuisamo à laquelle vous n'avez pas pu participer. Bon, un petit mot pour Jean-Marc Gaillard avant qu'on libère Jean-Marc, qui s'inquiète un tout petit peu de son état de forme.
Ouais, bon, il a l'habitude de pas partir très fort sur ses débuts. Faut pas qu'il s'affole et je pense que comme il l'a fait les deux dernières fois, il tiendra fort sur le mois de décembre.
Bon ben, en tout cas c'est tout ce qu'on lui souhaite. Merci beaucoup Jean-Marc Gaillard d'être passé par Carrément de Lys. Petite étape dans votre préparation donc, destination de la Coupe du Monde à la Clusaz, 18 et 19 décembre prochain, et puis pour tous les autres objectifs de cette fin de saison. Merci beaucoup Jean-Marc.
Merci à vous, bonjour à tout le monde et à Vincent, ciao.
Et à Vincent notamment, Vincent Vitos qui est en notre compagnie. Vincent, on voulait prendre de vos nouvelles, vous qui êtes blessé, on le rappelle, vous avez été blessé lors du relais à Galiva en Suède, déchirure à la cuisse gauche, l'absence toujours prévue jusqu'à mi-décembre, comment ça va ?
Oui, pour le moment ça va bien, c'est bon, je peux pas skier, je peux pas courir encore, c'est beaucoup trop tôt, ça fait qu'une semaine. Le retour sur les skis et en compétition se décidera vraiment vendredi matin où je vais refaire un IRM de contrôle. Et à partir de là, on verra plus nettement où en est la déchirure. Quoi, j'espère qu'elle sera plus là, mais bon, je pense qu'il y aura encore quelques traces et il faut être patient.
La Clusaz semble un objectif réaliste ou pas ?
Pour moi, la CLUSA aujourd'hui, c'est. J'espère être présent. Après, avec quel objectif, ça, je ne sais pas.
Alors,
C'est trop tôt pour le dire.
on apprend ce matin dans l'équipe, je ne le savais pas, que vous avez tenté de travailler, ou de vous tenter d'ailleurs en ce moment, de travailler le haut du corps via un traîneau modèle handisport. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer le fonctionnement?
Oui, vu que je peux pas faire grand-chose avec mes jambes, en fait, j'ai essayé de chercher des solutions pour continuer malgré tout de m'entretenir, de ne pas perdre trop au niveau conditions physiques et puis également travailler avec le haut du corps. Et j'ai pensé à ces luges qu'utilisent les gens qui sont en fauteuil lors des compétitions paralympiques ou d'handisport. Et donc c'est une luge avec des skis dessus et en fait les pieds et le corps sont on est assis quoi, le pied et le corps sont attachés et c'est uniquement un travail du haut du corps.
Je trouve que c'est une belle passerelle entre le monde handisport et le monde du sport valide, de pouvoir s'appuyer bien sur le savoir-faire d'une technique d'une équipe de France handisport qui a réussi à vous procurer ce fameux traîneau, comme on peut
Ouais,
l'appeler.
j'ai vraiment eu de la chance grâce à Claude Terraz qui habite très près de chez moi, qui a pu me fournir en une luge et il m'a pu me prêter ce matériel. Il en a plusieurs à disposition car il fait régulièrement des éducations pour des gens en fauteuil. Et c'est vrai que j'ai pu, grâce au club aussi Vercors Handisport, bénéficier de
De
ce
ce
matériel. Et
matériel.
c'est vrai que c'est très très utile pour moi. Depuis samedi, là, j'ai fait 3 séances et retourné. Et c'est vrai que c'est quand même très difficile sur les bras. Ça demande beaucoup du haut du corps, mais justement pour ma part, ça sera. Si je vais perdre au niveau membre inférieur, c'est sûr qu'au niveau du haut, ça sera très bénéfique.
Oui, c'est presque à se demander s'il ne faudrait pas l'utiliser pour travailler spécifiquement le haut du corps dans le cadre d'une préparation, parce que c'est vrai que là, pour le coup, j'imagine que ça vous fait travailler de manière complètement différente une partie de votre corps qui n'était pas habitué à travailler de cette façon et à se propulser seul.
Oui et non, c'est vrai qu'on a quand même l'habitude de faire énormément de travail sur le haut du corps et notamment l'été en ski à roulettes, on fait beaucoup de montées de col en poussée uniquement. Par exemple, le col de l'Iseran se fait régulièrement uniquement à l'aide des bras. Donc c'est malgré tout quelque chose qu'on travaille beaucoup à l'entraînement parce que dans le ski de fond à l'heure actuelle, le haut du corps est très important et il faut vraiment pas négliger cette préparation. Bon, maintenant, on a aussi besoin de des jambes dans le sport. Mais bon, ces temps, je peux pas l'utiliser, donc
Un
un moindre mal, je vais dire. Je peux encore faire des séances un peu d'enduro et maintenir un petit peu. Donc, j'espère ne pas trop perdre. Mais bon, malgré tout, je pense que même s'il y aura un petit gain sur le haut, il y aura une perte forcément en étant central. Avec les jambes.
Ouais, on vous perd un petit peu, Vincent Vitoz. En tout cas, on vous remercie d'être passé par Carré Mandelis et nous avoir eh bien, donné de vos nouvelles. On espère effectivement un retour pour la mi-décembre pour vous. Et puis on applaudit cette très belle initiative, cette très belle passerelle entre le monde handisport qui vous a donc procuré cet instrument de travail pour ne pas perdre la forme physique. Merci beaucoup, Vincent Vitoz. Et à très très vite, évidemment, dans Carré Mandelis
Merci,
pour de nouvelles
j'espère bien.
aventures. De ski de fond, on clôt cette page ski de fond et puis on va parler désormais de combiné nordique avec Nicolas Michaud qui nous rejoint désormais.
Retrouvez Carré Mandelis en rediffusion cet après-midi dès 15h30 sur RTL L'Équipe.
Un directeur sportif du combiné nordique qui nous rejoint, Nicolas Michaud, bonjour. Nicolas Michaud qui... Ah oui, petit problème technique avec Nicolas Michaud, ça a visiblement raccroché. On va rappeler d'ailleurs les résultats des Français, des résultats qui ont été plutôt bons puisque le premier d'entre eux, Jason Lamy-Chappuis, est de retour déjà au sommet avec une première place et une troisième place, une victoire et un podium pour Jason Lamy-Chappuis donc qui s'installe déjà tout en haut de la saison de Coupe du Monde. On a retrouvé Nicolas Michaud, le directeur sportif du combiné nordique français. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
La satisfaction dans le clan tricolore avec ce week-end. Déjà, on peut parler de Jason Lamy-Chappuis, ça s'est très bien passé pour lui, une victoire, une troisième place. Le voilà déjà avec le maillot de leader.
Très bon week-end pour lui. C'est vrai que Après son titre olympique, il avait eu un printemps un peu compliqué. Et du coup, de commencer la saison comme ça avec une victoire, voilà, ça, je dirais que ça met un peu fin aux discussions. Et lui est reparti vraiment maintenant très très bien, avec le maillot jaune sur les épaules. Et je crois qu'il va avoir à cœur de le défendre maintenant tous les week-ends.
Alors surtout, ce qui est intéressant véritablement sur ce début de saison de Jason Lamichapuis, c'est qu'on a l'impression qu'il est constamment en progrès. Il a réussi à trouver une régularité en saut, ça c'est un fait. Mais en plus, il y a derrière le ski de fond, c'est-à-dire qu'il y a un vrai équilibre aujourd'hui chez le combinard Jason Lamichapuis.
Oui, on l'avait même annoncé depuis quelques années. On avait dit Jason dans quelques années sera aussi fort en ski de fond qu'en saut, parce que c'est vrai que tout le monde le voyait comme un très bon sauteur et comme quelqu'un qui limitait la classe en ski de fond. Et aujourd'hui, je crois qu'il va faire peur aussi aux autres concurrents sur la piste de fond, ce qui est déjà le cas là, mais il va encore évoluer là de course en course. Et après, on peut même imaginer que sans être forcément des fois toujours devant après le saut, il sera capable aussi de revenir de la dixième place des fois pour venir chercher une victoire. Donc c'est sûr que ça lui amène une base assez impressionnante. Et il peut jouer sur les deux tableaux, on va dire. Et c'est pour ça que Jason, bien sûr, est le concurrent sur ce circuit-là et le plus fort du monde en ce moment. Oui.
Et physiquement, ça a dû être un équilibre difficile à trouver pour lui, puisqu'on sait que bah, physiquement, corporellement, ça demande deux qualités différentes.
Ouais, c'est toujours la problématique de la préparation physique pour le combiné nordique. Hein. C'est vraiment deux disciplines opposées totales. Beaucoup d'explosivité pour le saut, beaucoup d'aérobie pour le combiné. Quand vous faites trop d'heures d'aérobie, vous avez un peu moins de fibres rapides, donc moins de sensations pour le petit saut. Si vous travaillez avec le saut et que vous ne faites pas d'heures d'entraînement, bien sûr que c'est un peu plus compliqué sur la piste de fond. Donc voilà, il faut jouer entre les deux. Il faut faire un peu des deux, on va dire, développer un peu les deux et trouver le bon équilibre. Mais je crois qu'aujourd'hui, toute l'équipe l'a trouvé, notamment pour Jason. Et voilà, une fois de plus, il va pouvoir jouer sur les deux tableaux. Ouais.
Est-ce que le reste de l'équipe de France vous a satisfait aujourd'hui, ce week-end, Nicolas Michaud, durant cette épreuve de Coupe du Monde à Cusamo?
Oui, c'est ça aussi la quand même la bonne nouvelle. C'est sûr qu'on est content que Jason soit là, mais on avait aussi comme tout orienté depuis le printemps sur l'équipe. On avait décidé de dire maintenant quatrième au jeu par équipe et quatrième au championnat du monde en 2009, ça commence à suffire. Donc on avait des objectifs de podium par équipe au championnat du monde d'Oslo, et c'est pour ça qu'on a organisé beaucoup ça autour de l'équipe et beaucoup discuté avec l'équipe et un peu plus parler des autres, un peu aussi pour dédouaner un petit peu Jason et arrêter de focaliser aussi un peu sur lui. Donc c'est pour ça que c'est bien de voir l'équipe ce week-end-là très présente, très proche de Jason. Hein, François Robourot qui fait une fois dixième, Sébastien Lacroix qui fait deux fois dans les 15 premiers, Max Leurt qui revient aussi très fort. Voilà, donc ils ont eu encore quelques difficultés les autres sur la course de fond, mais ils montrent un niveau de saut vraiment impressionnant. 1, 2 et 5 après le concours de saut là, du dimanche, c'était du jamais vu honnêtement en France. Donc c'était vraiment super. Maintenant voilà, il faut qu'ils évoluent encore un petit peu en ski de fond, mais on n'a pas trop de soucis. On pense que de course en course ça va aller. Et ce qui va faire que voilà, notre équipe est maintenant conquérante pour essayer de jouer un vrai podium sur un grand événement.
Et ce qui serait évidemment un coup de projecteur encore plus important peut-être sur la discipline qui est le combiné nordique. On a parlé de cette dixième place de François Brault, des bonnes performances de Maxime Leurt ou encore de Sébastien Lacroix. Qu'est-ce qu'il faut travailler maintenant avec eux pour les pousser un tout petit peu plus haut, pour les aider à titiller les meilleurs?
C'est surtout la partie fond, parce que voilà, on l'a vu sous le saut, honnêtement, ça va être compliqué de faire mieux, mais on sait qu'ils ont un bon niveau, ils sont en confiance, donc ils vont garder ce niveau-là. Par contre, en ski de fond, voilà, ils ont très peu couru, donc quand vous avez peu de maturité encore en ski de fond et que vous avez très peu couru, il faut quelques courses quand même pour mettre la machine en route. C'est pour ça qu'on imagine qu'au fur et à mesure des week-ends, ils vont pouvoir élever leur niveau en ski de fond. Donc toujours continuer à travailler en ski de fond, à travailler tactiquement aussi, parce que je pense qu'ils ont encore à gagner aussi tactiquement sur les courses de fond. C'est la grosse qualité de Jason. Et je crois que les autres, bon, essaient de copier, mais ils ont encore aussi un petit peu de travail sur les tactiques en course. Mais voilà, c'est essentiellement sur la partie ski de fond. Et s'ils évoluent là sur la partie ski de fond, je peux vous dire qu'ils vont vite... Ils vont vite être conquérants pour l'équipe.
Et ce sera ma dernière question, Nicolas Michaud. Justement, l'équipe, vous qui la mettez énormément en avant, on la situe à quel niveau, cette équipe de France aujourd'hui, de combiné nordique, dans le concert international?
On peut dire qu'en arrivant au jeu l'année dernière, on n'était pas forcément dans les trois favoris qui allaient faire des médailles. On l'avait dit, on était plutôt dans les outsiders. Bon, on a failli la faire, hein. Ça s'est joué à pas grand chose, on fait quatrième. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans les nations favorites pour faire des médailles. Les nations favorites pour faire des médailles, on va dire qu'il y en a, allez, on va dire qu'il y en a 4 ou 5. Donc on est aujourd'hui vraiment dans les 4 ou 5 meilleures nations. Plus on élève le niveau de notre équipe, plus on est sûr de faire une médaille ou d'aller jouer après la plus belle couleur, quoi. Donc c'est l'objectif qu'on a. Là, on sait qu'on sera entre guillemets dans la bagarre aux médailles. Maintenant, voilà, il faut élever le niveau au maximum pour le jour où arrivera cet événement qu'on soit à peu près sûr d'en jouer une et éventuellement de jouer la plus belle.
Les championnats du monde à Oslo cette saison. Merci beaucoup Nicolas Michaud d'avoir fait le point pour nous sur ce début de saison. Et ben, très satisfaisant, on l'aura compris, de l'ensemble des équipes de France et notamment de celle donc, de combiné nordique portée par un Jason Lamiche, puis déjà leader de la Coupe du Monde et victorieux à l'occasion de la première manche de cette Coupe du Monde. Merci beaucoup Nicolas, on vous souhaite évidemment plein de nouveaux succès tricolores et une belle satisfaction d'ensemble, donc on l'a compris, pour au-delà de Jason Lamiche, puis François Brault, Maxime Laherte et Sébastien Lacroix. À très vite, Nicolas, dans Carrément Glisse.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Sur RTL L'Équipe, c'est Carrément Glisse jusqu'à 12h30. RTL L'Équipe, la radio sport et info. RTL L'Équipe, Carrément Glisse, Clément Grèze.
La deuxième demi-heure de Carrément Glisse consacrée au patinage artistique. Retour évidemment sur le trophée Bompard qui a souri notamment à deux Français, Nathalie Péchala et Fabien Bourza, qui a souri également à Florent Amodio. Deuxième chez les hommes, qui a moins souri à Brian Joubert. On aura l'occasion d'en parler avec Céline Longlèvre qui est déjà en notre compagnie du journal L'Équipe. Jean-Roland Ratte, le directeur des équipes de France de patinage artistique, et Nathalie Péchala également qui sera en notre compagnie d'ici quelques minutes. Alexis Contin viendra conclure cette émission tout à l'heure, lui qui est le fil rouge de RTL L'Équipe et de Carrément Glisse, lui qui est annoncé, on le rappelle, comme un futur champion olympique en 2014 à Sochi par le président de la Fédération Française des Sports de Glace, Didier Gaillet. Alexis Contin qui sort d'un week-end assez décevant en Norvège, il fera le point pour nous sur son état de forme. Midi 4 sur RTL L'Équipe, c'est Carrément Glisse que vous écoutez jusqu'à midi et demi.
Sur RTL L'Équipe, c'est Carrément Glisse jusqu'à midi et demi.
Et la rediffusion, évidemment, à retrouver de 15h30 à 16h30 sur RTL L'Équipe. Sans oublier le podcast sur rtl.fr, disponible dès le début de l'après-midi. Nous parlons donc du trophée Bompard, un trophée qui s'est déroulé tout au long de ce week-end au Palais Omnisport de Paris-Bercy, qui a vu la victoire notamment en danse sur glace de Nathalie Péchala et de Fabien Bourza. Victoire chez les hommes de Kozuka devant un Français, Florent Amodio. Voilà pour les nouvelles des tricolores. On fait le bilan de ce trophée Bompard en compagnie aujourd'hui de Céline Longlèvre du quotidien L'Équipe. Bonjour Céline.
Bonjour.
Est-ce un bon bilan pour le trophée Bompard avant de se pencher sur les bilans, sur le bilan français plus exactement? Est-ce qu'on a vu du bon patinage?
On a vu de belles choses, on en a vu de moins belles évidemment. Le bilan est mitigé quand même, même si on retiendra les très belles choses, puisque ça, c'est vraiment, c'est plus qu'encourageant avec la confirmation de Nathalie Péchala et Fabien Bourza au plus haut niveau. Et puis la confirmation aussi que Florent Amodio n'est pas encore au niveau des tout meilleurs mondiaux, mais qu'on peut nourrir de vrais espoirs le concernant.
Alors justement, on va commencer par parler de Florent Amodio, qui a changé d'entraîneur à l'issue de la saison dernière, après sa belle prestation à Vancouver, où il avait véritablement conquis le public. Il s'entraîne désormais avec Annick Dumont, notamment. Qu'est-ce qu'on peut dire de
il
la...
Il s'entraîne surtout avec Nikolaï Morozov, Russe Nikolaï Morozov. C'est quand il est en France qu'il s'entraîne un peu avec Annick Dumont.
Et les changements apportés par ce duo d'entraîneurs sont-ils sensibles dans la qualité du patinage de Florent Amodio?
Disons que Nikolaï Morozov a vraiment choisi de mettre en valeur ce qui, pour l'instant, c'est la force de Florent Amodio, à savoir une très belle glisse, une vraie qualité d'interprétation et un vrai sens artistique. C'est un garçon qui danse, qui bouge, et donc il a choisi avec Florent des musiques qui mettent en valeur cette personnalité-là pour pouvoir stabiliser ensuite son patinage, sa technique, et éventuellement après envisager d'y ajouter des difficultés comme le quadruple saut que Florent ne tente pas cette année.
Il ne tente plus cette année, il a fait le deuil de ce quadruple pour pouvoir justement progresser sur d'autres aspects où ça ne rentrait pas forcément en ligne de compte dans son programme de cette saison.
Disons que cette année, il a vraiment fait le choix de stabiliser sa technique et lui dit effectivement que le quad est venu finalement en même temps que d'autres difficultés. Et là, c'est vrai qu'il a fait un choix radical. Hein. Il ne s'entraîne plus en France. Il est là très rarement. Il s'entraîne maintenant entre la Russie et la Lettonie avec Morozov. C'est donc un vrai changement dans sa vie parce que c'est un garçon en plus qui est très...
Casanier.
Donc voilà, il faut d'abord qu'il intègre, qu'il digère ces changements-là pour pouvoir après franchir la vie qui reste à franchir et atteindre le vrai haut niveau avec d'autres armes.
Ouais, et la vraie bonne nouvelle, c'est qu'il est en progrès en termes de points puisqu'il a réussi à battre son record personnel avec 229,38 points. Le voilà donc qualifié pour la finale du Grand Prix. Ce sera à Pékin les 10 et 11 décembre prochains. Est-ce qu'on peut avoir des ambitions pour lui ?
Sur la finale du Grand Prix ?
Oui.
Très honnêtement, je ne crois pas. Parce que là, il va se retrouver. Il faut quand même être honnête. Hein. Il est en phase de progression. Il a un énorme potentiel, mais pour l'instant, il n'y a qu'à voir entre lui et Kozuka qui gagne. Il y a quand même 30 points. Donc Kozuka n'étant pas le meilleur mondial, là-bas, il va se retrouver face aux champions du monde, aux vice-champions du monde. Et ce sera quand même une toute autre histoire.
Et bon, ce sera bien pour apprendre, comme les Jeux Olympiques de Vancouver lui avaient servi déjà l'année dernière à prendre de l'expérience et à découvrir ce qu'était le très très haut niveau. Il y avait d'ailleurs une belle ambiance au moment de l'apparition de Florent Amodio sur la patinoire hier à l'occasion de ce trophée, bon, par avant-hier plus exactement. Belle ambiance au Palais des Sports.
Il
fait l'unanimité, hein, il plaît véritablement.
Il plaît, voilà, il plaît.
C'est la bonne nouvelle pour...
C'est un garçon qui met de l'ambiance et qui rajeunit, dépoussière un peu un patinage qui en a besoin.
Avec un Brian Joubert, auteur de la polémique du week-end, est-ce une polémique ? Est-il vraiment malade, Brian Joubert, en tout cas, que l'on ne retrouve pas en ce début de saison ? Il y avait pourtant des signes qui pouvaient être encourageants en début de saison. Et puis là, patatras, un programme court raté, on a envie de dire, et derrière ce forfait pour le libre.
Alors, je vais tout de suite oublier le côté polémique de la chose. Je ne sais pas s'il est réellement malade et à la limite, ça n'a pas d'importance puisque lui-même n'a pas parlé de la maladie. Lui-même, quand il a donné sa conférence de presse pour expliquer son forfait, a d'abord avoué ses inquiétudes du moment et le fait qu'il ne se sentait pas prêt à se prendre une nouvelle claque. C'est très dur pour un garçon comme lui, aussi talentueux que lui, un grand champion qui a 15 médailles internationales, un titre mondial, 3 titres européens, de se remettre d'une 16e place aux Jeux Olympiques, même s'il y a eu une 3e place aux championnats du monde derrière, d'accepter de se remettre en cause totalement. Il a engagé un énorme travail pour essayer de recoller au wagon de ce qui est actuellement demandé dans le patinage. Et ça, c'est très compliqué pour lui. Maintenant, il ne faut pas non plus enterrer ce garçon. D'abord parce que c'est un grand champion et qu'il a souvent été un champion à réaction. Et ensuite, parce que même s'il a raté le programme court vendredi, s'il réussissait simplement l'une des deux, s'il est gommé l'une des deux erreurs qu'il a commises, c'est lui qui était en tête après le programme court. Donc il faut, c'est compliqué, il faut relativiser. En même temps, c'est un garçon qui nage en plein doute. Donc on ne sait pas du tout ce que l'avenir lui réserve. Je pense que lui-même ne sait pas exactement ce qu'il veut. Mais voilà, pour l'instant, c'est plutôt une inquiétude pour savoir ce qu'il va devenir.
Et ce qu'il veut faire, effectivement, de la suite de sa saison, voire de sa carrière. On a parlé des hommes, on va parler de la danse, puisque Nathalie Péchala nous rejoint désormais. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Céline Longuèvre également en notre compagnie du quotidien L'Équipe. Céline, on a vu une nouvelle fois Nathalie Péchala et Fabien Bourza, dominateurs, vainqueurs en danse et qualifiés évidemment pour la finale du Grand Prix.
Oui, Nathalie et Fabien, c'est vrai que depuis le début de la saison, bon, ils sont partis maintenant depuis près de 2 ans en Russie, eux aussi, comme Florent. Eux travaillent avec un ancien champion du monde, Alexandre Jouline, et avec lui, ils arrivent à une espèce de plénitude, de sérénité qui leur permet d'exprimer toutes les qualités qu'on leur connaît. Mais là, ça y est, ils arrivent réellement à maturité. Ils sont très stables, très fiables et ils ont des très, très beaux programmes. Donc oui, effectivement, là, pour Nathalie et Fabien, on est dans une autre catégorie. On est vraiment, pour eux, cette saison, c'est le très, très haut du panier.
C'est le très, très haut du panier et surtout, c'est une performance qui ne cesse de progresser. Nathalie Péchala, avec un nouveau record personnel et surtout beaucoup de bonheur sur la glace du POPB.
Oui, c'était une belle expérience d'avoir gagné ce trophée Bompard. C'est vrai qu'on avait gagné 2 semaines avant notre première médaille d'or en Grand Prix en Chine. Sauf que là, on a pu la partager avec la Fédération, nos amis de l'équipe de France et puis également la famille et les amis qui étaient venus pour nous encourager. On a fait des performances sans faute et donc on est vraiment satisfait de ce début de saison. Ça laisse un bel avenir pour les championnats d'Europe qui arrivent dans 2 mois.
On a vraiment l'impression, Céline Longuèvre, que Nathalie et Fabien sont désormais presque ce qui se fait de mieux en danse sur glace. Est-ce que c'est un constat un petit peu trop hâtif ?
On va attendre la finale du Grand Prix où, comme le disent Nathalie et Fabien, d'ailleurs, ils vont pour la première fois être en confrontation directe avec ce qui, a priori, se fait de mieux ou se faisait de mieux, en tout cas l'année dernière, à savoir les Américains Davis White, qui sont vice-champions olympiques et vice-champions du monde. Mais effectivement, on sent, en tout cas, que la marge que pouvaient avoir les Américains s'est considérablement réduite. Alors, on va voir effectivement comment les situer exactement par rapport aux Américains. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, en sachant que les champions olympiques n'ont pas fait le début de la saison, il y a les Américains et les Français.
Ça veut dire, Nathalie, aujourd'hui, Nathalie Péchala, en notre compagnie aujourd'hui dans Carrément de Liste, que vous êtes obligée d'avoir de gros objectifs. On ne peut plus patiner caché.
Non, on en a toujours eu, mais c'est vrai que cette année, c'est là où ils sont plus atteignables, ils sont vraiment réalisables. On s'est déjà confronté aux Italiens et aux Russes, donc en Chine, qui seront aussi prétendants au titre européen, et on les a surpassés. Donc, faut pas s'arrêter là, faut continuer de travailler. Et c'est vrai que cette année, on a de grandes chances de faire des très bons résultats, notamment au championnat du monde.
Le championnat du monde, ce sera votre objectif. On veut vous voir sur votre podium. Ça veut dire que vous avez axé votre préparation dans cette optique-là ou finalement vous aviez décidé dès le début de la saison d'être prêt pour ces rendez-vous du Grand Prix?
Oui, on avait décidé d'être prêt très tôt dans la saison. C'est pour ça qu'on a demandé aussi à participer à 2 compétitions internationales supplémentaires. Il faut savoir que les règlements dans sur glace évoluent chaque année. Donc pour être sûr d'être prêt, on a voulu aller voir les juges et leur demander leur avis sur les programmes. Et c'est vrai que on est fin novembre et on est prêt à donner le meilleur de nous-mêmes. En fait, on n'a pas du tout en retard sur le programme, contrairement à peut-être d'autres couples. Donc, c'est vrai qu'il faut pas se reposer là-dessus parce que les autres couples sont peut-être un peu plus en retard, moins prêts au début de saison, mais ils le seront forcément lors des grands rendez-vous comme le championnat d'Europe fin janvier.
Ouais, avec cet objectif une nouvelle fois d'aller chercher le titre, puisque on rappelle que les grands favoris dans cette discipline, les co-favoris avec vous sont soit canadiens, soit américains. Céline Longuèvre en notre compagnie. Pour Nathalie et Fabien, on a l'impression qu'il y a assez peu de travail maintenant qu'il faut fignoler, mais aujourd'hui on voit par exemple ce week-end au Trophée Bompard, un Fabien qui patine avec une tendinite et pourtant ça ne se voit quasiment pas. Le programme est parfaitement rodé. On imagine mal, on voit mal, mais c'est vous la spécialiste, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer les progrès qu'ils ont à faire sur ce programme particulier.
Je crois que Nathalie sera la première à vous dire que des progrès, il y en a encore à faire parce que la danse est un chantier permanent et en particulier sur tout ce qui peut représenter l'expression
artistique. Je discutais ce week-end avec, avec leur entraîneur, avec Alexandre Jouline, qui me disait que Nathalie et Fabian commençaient seulement maintenant à exprimer le couple qu'ils forment sur la glace. Et cette connexion-là, c'est quelque chose, c'est un vrai travail que eux entament. Et doivent approfondir et doivent exprimer encore davantage sur la glace.
L'expression scénique, Nathalie Péchala, c'est le chantier maintenant de votre couple, du couple que
oui,
vous formez avec Fabian.
On a beaucoup axé la préparation sur la technique et le physique. Donc c'est pour ça que même si Fabian avait une tendinite ce week-end, ça ne s'est pas remarqué parce qu'on a été prêts et affûtés. Ceci dit, c'est vrai qu'il va falloir penser à prendre du repos juste avant les Europes. Et le gros travail, ça va être l'expression, puisqu'on a des thèmes forts, Docteur Jivago et Charlie Chaplin, qui sont quand même lourds, donc il va falloir l'exprimer correctement et exploiter ce potentiel.
Alors ça se travaille comment, précisément, pour tous ceux qui découvrent ou qui suivent occasionnellement le patinage artistique? On travaille comment l'expression scénique? C'est de la scène, tout simplement, du théâtre?
En fait, on a deux axes de travail. On a d'un côté tout ce qui est danse, gestuelle. Ça, on le travaille avec notre chorégraphe espagnol Antonio Narraro. Et ensuite, on va travailler plus justement ce qui est mimique, mimique pour Chaplin et émotion, intention avec Julien Cottreau, qui est pas qu'un clown, qui est un clown, un acteur français assez reconnu puisqu'il a eu un, il a gagné un Molière il y a 2 ans. Et lui nous apporte vraiment le côté théâtral. De notre sport.
Ouais, c'est un vrai sport d'expression physique, mais également artistique, la danse sur glace, qui eh bien, aujourd'hui est portée, entre autres, en France par ce couple. Nathalie Péchala et Fabian Bourza, dominateurs ce week-end à l'occasion du Trophée Bompard. Je vais vous remercier, mesdames, vous remercier d'être passées aujourd'hui dans le Carré Mondelis pour faire le point sur ce Trophée Bompard, avec donc votre victoire, Nathalie, aux côtés de Fabian Bourza dans la danse sur glace, et puis la belle deuxième place également de Florent Amodio, dont nous a parler longuement Céline Longuève. Merci beaucoup mesdames, et à
merci.
Très très vite, on l'espère,
merci
en tout
vous.
Cas dans Carré Mondelis, à très vite. Midi 20 sur RTL, l'équipe, on va faire une microscopique pause et puis on va prendre la direction de Jean-Roland Racle qui nous attend d'ici quelques instants pour faire le point sur les jeunes espoirs découverts à l'occasion de ce Trophée Bompard. Jean-Roland Racle qui est le directeur de cette équipe de France de patinage artistique et qui va nous parler de ces nouveaux noms, les Didier, les Bessédier que l'on découvre, les Marocco également, les Méité, toutes ces jeunes patineuses et jeunes patineurs que l'on va découvrir d'ici quelques instants en sa compagnie. On en profite d'ailleurs pour rappeler que chez les dames, c'est une Finlandaise qui s'est imposée, Korpi, avec un peu plus de 169 points devant l'Américaine Nagazu, 167 points, première française. Donc c'est Méité avec 137 points, les Françaises qui sont en progrès. Et puis on parlait de danse il y a quelques instants avec Nathalie Péchala et Fabian Bourza, a signalé que l'autre couple français, Karen Jones, a fini à la 4e place. Les résultats de ces équipes de France en compagnie de Jean-Roland Racle qui arrive d'ici quelques instants. Jean-Roland Racle, le directeur de cette équipe de France, qui est en notre compagnie. Bonjour Jean-Roland.
Bonjour.
Trois petites minutes avec vous pour évoquer ces nouveaux noms justement du patinage, les noms qu'il va falloir apprendre à connaître, et notamment chez les filles, puisqu'on n'en a pas encore parlé avec Céline Longuèvre, les Méité, les Didier et les Marocco qui se présentent et qui sont en progrès cette saison.
Oui. On peut constater que chez les dames, contrairement aux années passées, nous avons une véritable nouvelle génération talentueuse. Hein. Il y a bien évidemment Maë Bérénice Méité, il y a Léna Marocco, il y a aussi Iretta Silette qui a fait le parcours junior cette année, mais qui est une des postulantes au titre de championne de France. Et il y a Candice Didier. Donc on a une bonne génération de dames. Oui,
avec un tiers groupé aux alentours de la 10e place, 9e pour Méité. Et puis chez les hommes aussi, un patineur que l'on découvre, il s'agit de Bessélier, 5e, et qui avait devancé tout de même Brian Joubert à l'occasion du programme libre.
Oui, et Chafik Bessélier a été un peu la révélation de cette compétition. Parce que, et avant tout, il a été... le seul Français à réussir un quadruple saut, un quadruple triple, et ça c'est de bon augure pour l'avenir, c'est vraiment un élément très important pour nous.
Et ça veut dire qu'il y a un vrai renouveau hein, avec cette saison post-olympique. On parle de Florent Amodio beaucoup puisqu'il a pris la deuxième place, il va falloir compter avec Chafik Bessélier. Vous pouvez nous parler un petit peu, nous aider à découvrir le personnage
de Chafik ou
Chafik,
de Florent? de Chafik. Et d'ailleurs, écoutez, Chafik est un patineur qui a commencé sa carrière très tard, puisqu'il n'a que 5 années de patinage derrière lui à ce jour. Et ses entraîneurs à Grenoble ont tout de suite vu que ce jeune avait de grosses qualités. Et puis, écoutez, c'est un élément sur qui on compte. Et puis surtout maintenant, après ce qu'il nous a fait au Trophée Bompard. Hein. Et comme je vous le disais, chose très importante, il possède un quadruple saut, qui n'est pas malheureusement le cas de Florent Amodio.
Ouais,
et pour l'avenir,
encore, ouais.
le quadruple est incontournable.
Ouais, pas encore cette saison, effectivement, pour Florent Amodio. Le bilan, globalement, Jean-Roland, plutôt satisfaisant hein, pour cette équipe de France.
Écoutez, satisfaisant chez les messieurs, grâce à Florent Amodio, qui fait deuxième et qui gagne sa place en finale du Grand Prix dans 15 jours en Chine. Et surtout le couple Péchala-Bourza qui ont gagné et il s'avère qu'ils vont être très certainement champions d'Europe et ils sont sur une voie royale pour être aussi vice-champions du monde à ce jour.
Hein. Et en tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite à l'ensemble de cette équipe de France de poursuivre sur la dynamique initiée à l'occasion de ce Trophée Bompard avec deux podiums, notamment un pour Florent Amodio, la deuxième place, et puis ce succès pour Nathalie Péchala et Fabien Bourza. Merci beaucoup Jean-Roland d'avoir fait le bilan.
Je vous en prie.
Pour nous, et à très très vite dans Carrément Glisse pour de nouvelles aventures patinage artistique. C'était le bilan
du
Trophée Bompard. On parle désormais de patinage de vitesse.
Carrément Glisse sur RTL L'Équipe.
Le patinage de vitesse porté cette saison par Alexis Contin qui est en notre compagnie pour conclure cette émission. Salut Alexis.
Bonjour.
C'était moins bien ce week-end à Hamar. En Norvège, on a l'habitude de vous avoir au téléphone après de belles satisfactions. Mais ce coup-ci, les jambes n'étaient pas là sur 10 000 mètres avec une dixième place qui, j'imagine, ne vous satisfait pas vraiment.
Non, c'est sûr, je m'attendais à mieux. Je m'étais bien préparé. Et puis les deux premières Coupes du Monde avaient été vraiment bonnes, que ce soit sur 5000 ou sur 1500. Donc le week-end dernier à Berlin, je fais vraiment un très gros 1500. Donc je suis arrivé à Hamar avec de grosses attentions et une envie de bien faire. Bon, j'ai senti dès le 1500 mètres le samedi que j'avais pas les jambes ce week-end. Donc ça allait être un peu plus compliqué que prévu. Et ça s'est confirmé sur le 10 000 où je fais une bonne première moitié de course. Je suis parti quand même sur un temps pour viser le podium. Et puis j'ai vraiment explosé sur le deuxième 5000. Donc voilà, c'est clair que c'est une déception.
C'est la période de la saison qui explique cette relative contre-performance ou c'est tout simplement un jour sans?
Ouais, c'est un jour sans. Je pense que ça, c'est sûr. Dans un jour normal, je fais jamais une course comme ça, même en n'étant pas bien ou même en n'étant pas vraiment prêt à l'entraînement. C'est vraiment une performance très loin de mes capacités. Donc, je pense que ça indique un jour sans. Et puis, c'est clair que ça arrive dans une saison. On a une saison qui est très longue. Et là, rien que là, j'ai enchaîné trois semaines de Coupe du Monde. Je suis un de ceux qui a couru le plus aussi, puisque je faisais le 1500, les courses de fond et la poursuite par équipe. Donc, j'avais des week-ends bien chargés. Et puis, voilà, ça a été un peu trop. Donc c'est comme ça. Faut apprendre aussi. J'ai sûrement dû faire des erreurs de préparation pendant cette phase finale. Et voilà, je vais essayer d'analyser ça à froid avec mes entraîneurs pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas.
Justement, l'intégration de la poursuite, c'est une épreuve qui pompe aussi, j'imagine, de l'énergie qui n'était pas forcément prévue au départ.
Ouais, c'était prévu parce que voilà, on a envie de monter aussi en France avec la fédération un groupe de jeunes et essayer de pousser vraiment le patinage. Donc ça passe par une poursuite. On a un jeune Benjamin Massé qui arrive du short track et qui est vraiment très prometteur. Il progresse de semaine en semaine. Donc on a une bonne base pour la poursuite. Ça s'est pas bien passé. Il y a Pascal qui était un peu moins bien sur les deux week-ends de poursuite. Donc voilà, on a fait un peu comme on a pu, mais c'est sûr que ça pompe de l'énergie. Je dois faire beaucoup de tours en tête. Donc c'est une course de plus quoi. Faut se repréparer. Là sur le week-end d'Amar, ça fait que juste après le 1500, où déjà j'avais pas les bonnes jambes, j'ai dû renchaîner directement sur la poursuite. C'est clair que ça a joué sur ma récupération et j'ai bien senti dimanche matin en me levant que voilà, ça allait être une journée compliquée.
Le programme désormais pour Alexis Contin, c'est de repartir au travail. On imagine 4 semaines, c'est bien ça, à Calgary, au Canada, avant un retour en Europe. Sur quelle base, sur quel axe on va travailler pendant ces 4 semaines?
Bah, un peu dans le même axe, puisque j'ai quand même fait des très bonnes choses sur les Coupes du Monde. Je suis un gros 1500 mètres à Berlin une 46-3 en Europe, c'est très rapide, à un centième du podium. Donc ça veut dire que j'ai de la vitesse, je vais beaucoup plus vite que les années précédentes. Maintenant, il faut que je peaufine mon rythme de course sur 5 km. Je vais essayer aussi d'améliorer mon 500 mètres puisque je vise les championnats Allround cette année. Donc avec championnat d'Europe début janvier, championnat du monde mi-février, ça va être une grosse partie de la saison. Donc voilà, je vais pas tout changer parce que je pense que je suis dans une dynamique qui marche quand même. Donc un week-end sans, ça remet pas tout en cause. Mais ça me donne envie de m'entraîner encore un peu plus et de faire en sorte de ne pas revivre un 10 000 comme ça.
1500, 5 000 et 10 000. Objectif, les championnats d'Europe de Colalbo du 7 au 9 janvier 2011. Vous l'avez dit, les objectifs d'Alexis Contin, ils sont simples, j'imagine. C'est médaille au moins sur le 10 000, évidemment.
Ouais, des médailles. Le mieux, ce serait un classement général. Donc l'année dernière, j'ai fait 4e au chemin d'Europe, je suis vraiment pas passé loin, j'ai été handicapé par le sprint. Maintenant, cette année, je vais plus vite. Donc c'est clair que mon objectif, c'est un podium sur le classement général. Et avec des médailles par distance, autant qu'on peut, quoi. Mais ouais, Colalbo, j'ai déjà patiné là-bas, ce sera en Italie aussi. Mais je préparais toute la saison l'année dernière en Italie, donc... ça va être un peu spécial et j'ai vraiment envie de bien faire là-bas.
Eh ben c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup Alexis Contin d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le Carrément Glisse sur RTL Équipe pour faire le point sur ce week-end manqué, allez on va dire, à Hamar en Norvège et sur la suite de votre préparation en direction de ces championnats d'Europe de Colalbo donc du 7 au 9 janvier 2011. Merci beaucoup Alexis et à très très vite évidemment sur RTL Équipe.
Au revoir.
Retrouvez Carrément Glisse en rediffusion cet après-midi dès 15h30 sur RTL L'Équipe. Sur RTL L'Équipe, c'est Carrément Glisse jusqu'à midi et demi.
Carrément Glisse, effectivement, jusqu'à midi et demi, nous y sommes, enfin presque, vous allez pouvoir retrouver RTL Midi en compagnie de Laurent Bazin et d'Elisabeth Martichoux. Nous, on va se dire au revoir tout simplement et on va se retrouver, non pas la semaine prochaine, petite surprise du calendrier, mais dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Carrément Glisse. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie, toute l'actualité des sports d'hiver, vous le savez, c'est Carrément Glisse en podcast également sur RTL.fr. J'ai été ravi de passer cette heure en votre compagnie, RTL L'Équipe poursuit ses programmes, n'oubliez pas cet après-midi, Carrément Foot, 16h30, 18h, Classico ce soir sur RTL L'Équipe.